Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
À l'abordage, Moussaillon.
Et de Morren.
Salut tout le monde.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de Rage 2. On enchaînera ensuite sur Yakuza. Nous évoquerons Valkyria Chronicle 4. On parlera de Telltale et de The Wolf Among Us. Nous évoquerons Valve qui temporise par rapport à la polémique que nous avions évoquée la semaine dernière. Et enfin, on terminera avec la Switch qui a quelques news en provenance du Japon ainsi que du côté de la scène du bidouillage, n'est-ce pas? Sans oublier notre jeu du moment, c'est un jeu en accès anticipé qui s'appelle Black Wake. Allez, c'est parti. On commence donc avec ID Software Pixel.
Alors, il y a pas longtemps, en fait, Tim Willits, qui est le big boss d'ID Software, lors d'une interview, a déclaré quelque chose d'intéressant, en fait, pour tous ceux qui aiment pas les loot box. Je vais vous en donner la traduction française pour que tout le monde puisse bien le comprendre. Il dit ceci. Nous n'aurons pas de loot box, je peux vous le garantir. Nous avons cette approche inédite. Vous achetez le jeu et vous pouvez y jouer. Point. Donc, en fait, le boss d'ID Software, il est en train de nous dire que pour l'instant, en tout cas, officiellement, dans Rage 2, il n'y aura pas de loot box. Hein. Vous mettez votre jeu dans votre console, vous l'installez sur votre PC et vous pourrez y jouer. Il n'y aura pas de loot box.
Oui, bah alors, moi, cette news, je voulais juste dire que pour moi, c'est un peu la news de la tristesse. Parce qu'on en est quand même à un stade, je ne sais pas si vous vous rendez compte, où les gens se sentent obligés de balancer des vannes sur le fait que « Ah oui, mais nous, on n'aura pas de loot box, on est vachement trop sympa, tu vois. » Putain, mais c'est normal. Sur un jeu solo, c'est normal de pas avoir de loot box. Et je trouve malheureux qu'on en soit à un stade où même nous, ici à Game Info, on se sent obligé de faire des news quand il y a un studio qui fait quelque chose de réglo, enfin de normal, quoi, en fait. Voilà. C'est la tristesse. Quelque chose à ajouter, messieurs?
Non, je pense que t'as tout dit là-dessus.
Allez, Pixel, tu gardes la parole.
Ouais.
On passe à Yakuza.
Voilà, alors Sega a annoncé que les Yakuza 3, 4 et 5 vont ressortir sur PS4, remasterisés dans un glorieux 1080p 60fps. Pour l'instant, c'est prévu que pour le Japon, pour cette année pour Yakuza 3, et l'année prochaine pour Yakuza 4 et 5. Pas d'annonce hein, pour l'Europe ou les États-Unis. Tout ce que je peux dire, c'est que Yakuza 3 sera vendu pour un tarif d'environ 30€. Ça sortira le 9 août prochain. Au Japon seulement, et le reste, bah, ça sera Yakuza 4 et 5, il n'y a pas de date précise et pas de prix précis non plus.
Ouais, donc ça sera pas une collection comme on a pu l'avoir, notamment avec Ico et Shadow of the Colossus, c'est vraiment chaque portage sera tarifé à un prix unique. Bah c'est 30€ chacun, bon, ça commence à chiffrer quand même.
Bon, après, on sait que les prix au Japon, des fois, sont un peu surélevés par rapport au reste du monde.
Ouais.
Après, honnêtement, je doute très fortement que ça sorte chez nous. Et si ça sort chez nous, de toute façon, enfin, connaissant Sega, enfin, ils ont tendance à bâcler le travail, quoi. Je veux dire, bon, après, je suis mauvaise langue parce que pour une fois, ils ont pris une bonne décision sur le jeu dont on va parler après. Mais c'est Sega, quoi. C'est-à-dire que on est assis sur une mine d'or, en fait, et on n'en fait rien. C'est d'autant plus con que moi, je pense que, en tout cas, en France, il y aurait un public pour ces jeux-là.
Ah, c'est sûr.
D'ailleurs, ouais. Pixel, je pense que tu pourrais peut-être faire partie de ce public-là, non?
Yakuza, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. En fait, j'avais déjà joué à Yakuza 1 et 2 en version japonaise sur PlayStation 2. Mmh. C'est dire à quel point, en fait, je voulais y jouer avant sa sortie occidentale, on va dire. Même si à l'époque où j'y avais joué en version japonaise, on ne savait pas s'il y aurait une version occidentale. Et Yakuza 3 et 4, en fait, je les ai depuis quelque temps, je n'y ai toujours pas joué, mais bon, vu que les 3, 4, 5 ressortent en HD, s'il y a une sortie, peut-être, en Europe, pourquoi pas. Ça serait mieux de les avoir en 1080p 60fps plutôt que les avoir sur PS3 en 720p et en 30fps poussif.
Surtout ça, oui, parce que, putain, c'est des jeux qui ont mal vieilli, on va dire voilà. Ça comme ça. Enfin, déjà, à l'époque de leur sortie. C'était pas le Nirvana, quoi, on va dire. Donc, ça fait partie de ces jeux où le fait qu'il y ait un portage HD me dérange moins parce que, à l'époque, c'était pas top. Allez, on va passer à la suite, messieurs. Et on va maintenant parler de la bonne décision de Sega, à savoir Valkyria Chronicle 4 Pixel.
Ouais, alors Sega a annoncé récemment, en fait, que Valkyria Chronicles 4, hein, qui va sortir sur toutes les consoles disponibles et aussi sur PC, Eh ben, ce jeu aura droit à une traduction française. Ça fait plaisir, vraiment plaisir, parce que ça faisait des années qu'on attendait que Sega se bouge le cul pour traduire ses jeux dans une autre langue que l'anglais. Mmh. Donc là, ils vont le faire en français. Mais il y a un petit problème. C'est que la traduction française, elle sera que, apparemment, pour les versions consoles, et pas pour la version PC.
Oui, parce que bah il y a pas de version PC en fait. C'est ça le problème, c'est que alors pour vous expliquer un peu l'historique de Valkyria Chronicle, il faut savoir que le premier est sorti des années plus tard sur PC, mais vraiment des années plus tard. Et Sega étant une boîte un peu particulière où la branche américaine et enfin la branche occidentale plutôt maintenant on va dire est indépendante de la branche japonaise. C'est la branche occidentale qui décide quel jeu ou non va porter sur PC, etc. Et ça, vraiment, le portage PC de Valkyria Chronicle 4, c'était une initiative de la branche occidentale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la branche japonaise n'en ayant visiblement rien à foutre du PC, enfin, comme d'habitude avec Sega, hein, on est l'un des seuls éditeurs japonais qui a la capacité de faire des portages PC propres parce qu'on a des équipes compétentes pour le faire, mais on n'en fait pas, hein, parce qu'on est tellement cons que voilà. Et là, le problème, c'est que visiblement, par défaut, ils se sont pas dit, tiens, tous les Japonais en ce moment font des portages PC, sinon on en faisait un. Non, non. Ils attendent visiblement que, comme la dernière fois, la branche occidentale s'occupe du portage, si elle le veut bien. Peut-être qu'on en aura un, peut-être qu'on n'en aura pas dans quelques années, on sait pas. Voilà. Merci beaucoup, Sega. Allez vous faire foutre. Bon, sympa pour la traduction française, même si moi ça m'a diffère un peu parce que j'ai l'habitude de jouer à mes jeux en anglais de toute façon, mais c'est clair que pour les anglophobes, c'est une super nouvelle. Je sais pas si c'est un reflet de ce qu'avait dit, vous savez, le boss de Nice America à une époque où il disait que le marché français était très particulier et que ça valait le coup de faire une traduction en français parce qu'il y avait un public de niche qui était très adepte de ce type de jeu et qui avait de l'argent en plus parce qu'on est tous des trentenaires et que voilà, enfin la génération en tout cas Clubdo on va dire RPG japonais etc. On est maintenant des adultes qui avons de l'argent à dépenser dans des jeux auxquels on ne jouera jamais, n'est-ce pas? En tout cas Valkyria Chronicle 4, moi c'est clair que ça sera un jeu que je ferai sur PS4 du coup parce que c'est une franchise qui a le mérite d'être originale. Je le rappelle, c'est un RPG tactique qui mélange le TPS pour les phases, on va dire, où on contrôle les personnages et la tactique où on est en tour par tour, etc. C'est un simili tour par tour où on prend en contrôle des personnages et on les déplace comme si on était en vue TPS. Pour peu qu'ils prennent, on va dire, l'aspect esthétique du premier et qu'ils appliquent aussi tous les correctifs qu'il y avait eu en termes de gameplay, je rappelle que Valkyria Chronicle premier du nom avait ceci de particulier que la classe scout était totalement cheatée et que tu pouvais finir le jeu très facilement avec, en fait, et que ça avait été corrigé sur les versions PSP. Ouais, parce que le 2 et le 3 sont des jeux PSP. Ça encore, c'était une idée de génie de Sega. Donc voilà, j'espère que ce quatrième opus fera honneur au premier épisode. D'ailleurs, c'est pour moi le véritable Valkyria Chronicles 2. Par contre, autre bémol, hein, il y a un truc que j'apprécie pas trop. Les DLC Day One annoncent à l'avance où on pourra contrôler l'équipe du premier épisode. Sega, s'il vous plaît, quoi. Arrêtez, quoi. Arrêtez.
Moi, j'ai bien hâte de jouer à Valkyria Chronicles 4. J'avais le premier sur PS3, pardon. Et
tu n'y as jamais joué, c'est ça?
Si. j'y ai un peu joué. Je l'ai jamais terminé, par contre. Mais ouais, j'ai bien hâte de le voir, surtout qu'il sort sur Switch. Donc, ça sera une manière pour moi d'y jouer, quoi.
Bon, on va maintenant passer à la news suivante. Et cette news, c'est Telltale. Telltale, en ce moment, a quelques petits soucis. À savoir qu'ils ont dû annoncer le report de The Wolf Among Us 2, qui était prévu pour la fin de cette année, vers l'automne, pour être plus précis, et que finalement ça sera pour 2019, et que ça n'annonce a priori rien de bon. Pourquoi je dis que ça n'annonce rien de bon? Parce que dans le communiqué, hein, c'est le blabla habituel, hein, vous comprenez, on va essayer d'aborder des nouvelles manières de raconter des histoires, etc. On veut faire des choses différentes pour cet épisode-là, très bien. Sauf que, en fin d'année dernière, le studio avait viré à peu près 25% de son staff, soit 90 employés. Bon, je veux bien les croire que ils ont envie de changer un peu la formule telle, on va dire. Surtout que le PDG avait annoncé qu'il voulait essayer de faire autre chose. Par contre, on m'enlèvera pas l'idée que chez Telltale, il y a quand même quelques petits soucis, n'est-ce pas, Mandren?
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je pense que ce report, en fait, il fait suite à cette réalisation que ils ont plus beaucoup de projets. On en avait parlé à l'époque où ils étaient encore dans la grosse vague de leur hype. Ils sortaient épisode sur épisode sur épisode, plusieurs séries en même temps par moment. Et là, ils se rendent compte qu'ils peuvent plus faire ça et que donc cette année, on aura deux séries Telltale. Batman The Enemy Within qui est déjà terminé il me semble et The Walking Dead la dernière saison qui arrive dans le courant de l'année et je pense qu'ils se sont rendus compte en fait que c'était pas faisable pour eux d'avoir et Walking Dead et Wolf Among Us en développement en même temps et du coup en fait ils ont préféré décaler. Bon, on sait qu'ils ont plus grand chose sur les rangs, donc est-ce que ça leur permettra aussi d'attendre de voir et de démarcher pour éventuellement un futur projet, ou est-ce que finalement Wolf Among Us saison 2 ça sera leur champ du cygne? C'est un peu la question qui se pose, quoi.
Dans tous les cas, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que si ils revoient enfin leur méthode de production, ce serait bien.
Ouais.
Parce que je rappelle qu'on avait eu des échos comme quoi c'était un peu l'usine.
Ah oui, vraiment, ouais.
Hein. De toute façon, on s'en rendait compte, hein. Je veux dire, à bout d'un moment donné, tu peux pas sortir saison sur saison sur saison avec plusieurs séries en parallèle sans que ça s'en ressente sur la qualité d'écriture, sur le moteur qui, franchement, c'était une honte, quoi. Enfin, moi, je suis désolé, au bout d'un moment, quand t'as des outils hyper accessibles comme l'Unreal Engine 4, enfin, tous les moteurs qui existent sur le marché comme Unity, etc., et que tu continues à faire ton moteur absolument merdique, qui dégueulasse, enfin, moi, je veux bien que le cel shading, ce soit un style graphique, mais chez Telltale, le problème, c'est que ça devenait un cache-misère, quoi, en fait. Franchement, j'espère que malgré les problèmes qu'ils ont visiblement avec leur staff, ils tiendront leur parole sur le fait que cette fois, ils vont prendre vraiment le temps de revoir en profondeur leur jeu et surtout leurs mécaniques qui sont plus possibles, quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, il y a d'autres jeux narratifs qui sont sortis en même temps, il y a d'autres choses qui ont été faites, et même vis-à-vis des créatifs, enfin, je sais pas si vous imaginez, pendant des années, tu fais la même soupe. Et tout ce qu'on te demande, c'est d'écrire un scénario différent à chaque fois.
Non, mais en fait, le truc, c'est que... Parce que là, il nous parle de 2019. À la base, Wolf Among Us saison 2, ça devait sortir donc sur la deuxième moitié de 2018. Le truc, c'est que pour l'instant, le 2019, il est évasif. Ça peut très bien être tout début d'année 2019, auquel cas, ils auront absolument pas le temps de refondre toute leur formule. Si c'est plutôt fin 2019, par contre, ils peuvent éventuellement essayer, dans les décombres de ce qui reste de la hype de Telltale, un coup d'accélérateur. Mais... J'y crois pas trop, en fait.
T'as trop été déçu, Mandren?
Ouais. Moi, le dernier jeu Telltale que j'ai fait en entier, c'était le Game of Thrones, qui m'a pas mal déçu. Je les vois depuis longtemps, les limites de la formule Telltale. Et j'ai un peu peur qu'ils soient allés trop loin, en fait, dans leur emprisonnement dans cette formule. Et je suis pas sûr, sauf s'ils partent de zéro et ils se disent « Ok, c'est bon, Wolf Among Us saison 2, ça sera... » soit notre champ du cygne, soit le moyen pour nous de repartir de plus belle. Voilà, il faut qu'ils reprennent de zéro leur formule, et je suis pas sûr qu'ils soient prêts à le faire.
Et puis le marché a changé aussi. Hein.
Ouais.
Déjà, les jeux épisodiques, j'ai plus l'impression que c'est trop à la mode.
C'est vrai.
Et puis, même vis-à-vis des studios comme Telltale, c'est difficile de se faire une place aujourd'hui. Hein. Des studios qui ont fait des jeux narratifs, contemplatifs, etc., il y en a une chier depuis, hein. Ouais. Des Firewatch, etc. D'ailleurs, Mandren, Firewatch,
on continue à faire le test, hein. Firewatch, c'est pas mal. On verra pour un test plus tard.
Mais voilà. Enfin, il y a de la concurrence aujourd'hui sur le marché. Et ces concurrents, d'ailleurs, plutôt que de faire des jeux qui s'étalent sur tes saisons, ils ont choisi d'autres approches, comme par exemple faire des jeux plus courts. Moi, je t'avoue que pour le moment, ce que proposent ces concurrents, ça me convient plus que ce que fait Telltale. Hein.
Ouais. Et puis, à l'époque, ils avaient aussi la force des chiffres. Quand ils ont lancé Walking Dead, en fait, tout le monde a vu que c'était un carton, et toutes les licences se sont dit, bah tiens, on va... Enfin, tous les possesseurs de licences se sont dit, tiens, on va leur filer notre licence pour qu'ils en fassent quelque chose et que ça fasse autant de chiffres que Walking Dead. Mais en fait, aucun des autres projets, des autres licences qu'a eu Telltale, n'a eu le même succès. Et au final, est-ce que maintenant, ils sont pas simplement dans l'impasse? C'est-à-dire que, pour qu'ils aient un autre projet de licence importante, parce qu'il y a que comme ça que ça marche, un Telltale. S'ils essayaient un truc original, je suis pas sûr que ça marcherait aussi bien. Et je pense que Wolf Among Us, ça sera probablement leur dernière licence. Il va falloir qu'ils trouvent autre chose, quoi.
Tiens, d'ailleurs, tu soulignes quelque chose d'important. À un moment donné, ça serait bien d'arrêter de reprendre les univers des autres, quoi. Aussi.
C'est vrai.
D'un point de vue créatif, là, encore une fois, je parle. Hein. Mmh. En fait, moi, c'est tout le problème que j'ai avec Telltale. C'est un studio, j'ai l'impression, qui sont incapables de créer leur propre gameplay, de créer leurs propres univers, de créer leur identité, quoi. Enfin, leur identité, finalement, c'était une formule qu'ils ont reproduit ad nauseam sans la changer quasiment d'iota, quoi. Mmh. Et au bout d'un moment, enfin, je sais pas, faut essayer de se renouveler, quoi. Même d'un point de vue professionnel, ça doit être étouffant, je pense. Bref, je propose qu'on s'arrête là et qu'on passe à la suite.
Ouais.
Et on va maintenant parler de Valve, Morgan.
Ouais, vous en avez déjà parlé la semaine dernière. Steam a fait une espèce de coup de pression à tous les éditeurs et développeurs de jeux à caractère sexuel, érotique, voire pornographique, en leur disant que, en fait, ils allaient être complètement censurés, quoi, sur la plateforme. Et bon, on a eu un deuxième son de cloche en début de semaine dernière, du coup. Valve s'est dit... leur a dit désolé, en fait on va re-reviewer vos jeux. Bon, on sait pas trop d'où ça vient en fait. Est-ce que ça a été quelque chose d'automatique? Ça paraît étonnant. Est-ce que c'est quelque chose qui a été poussé d'un point de vue politique ou pas?
Ouais, parce qu'il y a une organisation qui s'est prévalue de ces changements, mais enfin voilà, c'est tellement facile
à de
venir
avec
et de
gros,
dire ah bah c'est nous au fait. Ouais, vous avez vu, on a réussi. Ouais, youhou. Vous pouvez pas nous donner un petit budget, s'il vous plaît, merci.
Bon, pour l'instant, on sait pas trop ce que ça va donner. En tout cas, les développeurs ont l'air un petit peu soulagés, mais bon, toujours un peu dans l'expectative, parce que forcément, s'ils sont plus en vente sur Steam, il va falloir qu'ils trouvent ailleurs. Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait des espaces hein, pour vendre leurs jeux en dehors de Steam, mais d'ailleurs non censurés, parce que à l'heure actuelle, il y a quand même une certaine forme de censure sur leurs jeux.
Oui, parce que on rappelle que c'est des jeux qui ont des scènes de sexe, hein, tout simplement,
oui,
et qui
oui,
sont censurés sur Steam. Mmh. Et il y a des patchs. Enfin, c'est un peu l'hypocrisie, tu vois. C'est-à-dire, ouais, bah, en gros, les gens, ils vont aller télécharger les patchs après, tu vois. Enfin.
C'est ça. Et d'ailleurs, parce que du coup, je me suis renseigné sur un des premiers jeux concernés, et en fait, il s'en faut aucun secret. C'est-à-dire que sur les forums de Steam, ils mettent des liens sur leur propre site pour te dire voilà comment on fait en fait, quoi. Donc bon. C'est un peu caché ce sein que je ne saurais voir, mais bon, si t'as envie vraiment de le voir ce sein, vas-y quoi. Donc
j'en profite au passage pour saluer la formidable opération de communication de GOG qui en a profité pour troller Steam, c'est-à-dire qu'ils ont sorti une section Hot Games sur leur site. Bon, soit dit en passant, je suis pas allé jusqu'à vérifier si ils avaient mis les versions censurées ou non censurées des jeux. Si c'est les versions censurées, c'est un peu faux cul quand même, hein, GOG, je vous ferai remarquer, voilà. Donc, faudra que je vérifie ça, je téléchargerai Sunrider, tiens, en plus je connais celui-là. Bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, hein. Pour moi, il y a des guidelines, soit ils les respectent, soit ils les respectent pas, point.
Ouais.
Et le problème, encore une fois, regardez ce qui se passe cette semaine, t'as l'impression que Valve, ils font les choses en fonction du sens du vent. Ah, oui. Les mecs gueulent un peu trop sur Internet. Oh bah non, bah du coup, on va... Non, c'est trop chiant, vas-y. Vas-y, là, ils vont nous casser les couilles. On les laisse tranquilles. On va essayer de calmer un peu le jeu. On fait genre, tu vois, on va refaire un processus d'évaluation, etc. Essayer de faire les choses proprement. Mais à aucun moment, t'as un communiqué pour dire « Ok, on a déconné, il faudrait qu'effectivement on revoie nos guidelines, qu'on revoie en profondeur comment fonctionne le système. » Que dalle. Tout fonctionne comme avant, circuler, il n'y a rien à voir, merci, au revoir. Bref, voilà, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est n'importe quoi. Je note que c'est dommage que Dwayne ne soit pas là, parce que pour le coup... Les deux propos qu'on tenait la semaine dernière se valent, c'est que moi je soutenais que c'était de la compétence, et je maintiens. Lui soutenait que c'était un complot pour que les jeux se vendent, et effectivement les jeux ils se vendent très bien en ce moment, hein, j'ai remarqué. Donc là les jeux qui sont vendus sur GOG par exemple, ça cartonne pas mal, hein. Donc bon, voilà, écoute, c'est Steam dans toute sa splendeur. Allez, on va terminer avec la Switch, Morgan.
Ouais. La Switch qui au Japon va obtenir un nouveau bundle, alors pas un bundle avec un jeu, mais un bundle moins cher, puisque bah, y a une bonne partie du bundle de base en fait qui disparaît dans ce packaging. Cette console en fait va être vendue comme une console portable quasiment, bah exactement comme une console portable d'ailleurs de Nintendo, puisque il y aura pas de chargeur et surtout pas le dock d'accueil. Vous savez que la Switch c'est une console qui peut se brancher sur votre télé en la branchant dans un dock d'accueil qui est branché à un câble HDMI évidemment. Et là il y aura rien de tout ça dans ce pack japonais pour l'instant. On ne sait pas si ça viendra en Europe ou aux États-Unis. Dans ce bundle, il y aura uniquement l'unité centrale de la Switch, plus les deux Joy-Con, plus deux Dragon. Ça va être vendu 40€ de moins que le prix normal de la Switch au Japon. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que on se posait il y a déjà plusieurs mois, voire années, la question de est-ce que la Switch va remplacer la 3DS ? Et cette mise en vente d'un bundle clairement portable tend à donner des éléments de réponse. À savoir quand même que Nintendo communique surtout sur le fait que bah, c'est un bundle qui va permettre aux gens d'acheter plusieurs Switch par foyer. Parce qu'effectivement, si t'as déjà une Switch dans ton foyer que tu veux en offrir une, je sais pas, à ta petite sœur ou etc., elle a pas besoin du dock d'accueil, elle a pas besoin du câble HDMI, elle a pas non plus éventuellement besoin d'un chargeur. Du coup, voilà, c'est un peu ça leur axe pour cette vente. Après, je ne me fais aucun doute qu'il y a des gens qui vont acheter la Switch juste parce qu'elle est moins chère et parce qu'il s'intéresse à sa fonctionnalité portable.
Ça serait tellement bien si on pouvait acheter des docks non officiels, hein, n'est-ce pas? Sans c'est que vrai. Nintendo les foute en l'air via une mise à jour, n'est-ce pas?
Mais d'ailleurs, je me suis renseigné à l'époque, je voulais savoir, parce que j'ai une carte d'acquisition sur mon PC, et je joue à la Switch de temps en temps pour l'enregistrer en fait sur mon PC, je suis obligé de l'avoir en docké pour pouvoir l'enregistrer. Je me suis renseigné pour en acheter un autre officiel, et j'en ai trouvé qu'un seul sur Cdiscount, et c'était à 90 balles, j'ai fait « ok, d'accord, très bien, à la prochaine ».
Mais ils se font tellement plaisir sur les accessoires, c'est abusé. Enfin, c'est Nintendo, tu me diras, mais bon, vraiment Apple, quoi.
Mais c'est surtout que c'est un bout de plastique, hein, véritablement. C'est-à-dire que t'as un port HDMI, un port de charge, et puis c'est tout, quoi. Et franchement, c'est gonflé. Après, je suis pas sûr que ça soit le prix officiel, parce que je n'en ai pas trouvé ailleurs.
Mais c'est bien ça, le problème. C'est que, encore, ça serait trouvable facilement à un prix accessible. Je dirais, bon, c'est hyper abusé qui permet pas d'acheter des périphériques autres. Mais au moins leurs périphériques à eux sont pas trop chers et ils sont accessibles. Mais là tu arrives même pas à en trouver, hein.
À savoir qu'un adaptateur secteur Switch officiel Nintendo c'est 30€ quand même. Bon. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour cette confirmation que la Switch est la nouvelle 3DS. Et dernière chose pour les gens que ça intéresse.
On a la confirmation que la Switch est la nouvelle PSP aussi.
Exactement. décidément, ça fait beaucoup de portables en une seule console. Et oui, parce que pour les gens qui sont amateurs d'émulation, etc., vous savez que la PSP, et la PS Vita d'ailleurs, sont deux consoles très intéressantes là-dessus, parce que assez facilement craquables et modables. Et ben la Switch, en fait, commence à être vraiment mise à profit de ce point de vue-là, et donc t'as des petits malins qui ont réussi à mettre en place des homebrew dans leur console, et notamment quelqu'un qui a fait tourner Outrun.
Il a fait ça en 5 heures, hein, le mec.
Il a fait ça en 5 heures. Par contre, juste pour préciser, la méthode est... c'est quelque chose de physique, c'est-à-dire que tu le fais pas avec un software. À partir du Joy-Con gauche, tu peux détourner la console faire entrer dans le mode de recovery, en fait.
Oui, parce que pour expliquer, il y a un bug avec le hardware Nvidia, donc ce n'est pas patchable. C'est-à-dire qu'ils pourront pas faire ça d'un point de vue software. Il faut vraiment qu'ils ressortent une nouvelle version de la Switch pour patcher ce problème, quoi, en gros. Ouais. Il y a deux pins. Si tu les relies entre eux, ça la fait passer en safe mode, en fait. Et du coup, tu peux faire ce que tu veux avec. Voilà. Donc, il y a des petits malins qui, du coup, vendent sur eBay un truc qui a sûrement été imprimé avec une imprimante 3D où tu le glisses dans le Joy-Con gauche et ça relie les deux pins. Et comme ça, tu peux la faire passer en safe mode sans prendre la tête. Et sinon, t'as la méthode hardcore où tu soules des trucs ou voilà quoi. Donc, à vous de choisir, camarade.
Voilà. Donc ça, c'est pour la scène émulation. Si ça vous intéresse, renseignez-vous.
Mais est-ce que toi, ça t'intéresse, Mandren?
Alors moi, l'émulation, ça m'a toujours intéressé. Après, j'ai une Raspberry Pi, donc Oui. Je suis pas sûr que j'ai vraiment besoin d'une Switch pour émuler.
Ouais, mais tu as le côté portable, Mandrane.
C'est vrai que ça, c'est très pratique. Après, je l'avais fait avec ma PS Vita, donc c'est bon. Je pense que je suis couvert
là-dessus.
Tu es
déjà équipé. Et puis c'est vrai que sur la PSP, enfin, c'est même pire sur la PSP, quoi. Enfin, c'est indécent. Enfin, tu fais ça, t'as même pas besoin de te prendre la tête à relier des pins, etc.
Ah ouais. C'est impressionnant.
Tu fais ce que tu veux, quoi.
Bah en fait, tout se fait via un navigateur. Et donc du coup, pour peu que t'aies une connexion Internet, bah tu la branches en émulation directe en fait ta console et puis bah t'as juste à trouver les ROM quoi. Donc c'est très 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 pratique.
Quoi qu'il en soit, à mon avis, ça doit grincer des dents chez Nintendo. D'ailleurs, ça grince tellement des dents qu'il y a des bidouilleurs qui se sont fait bannir leur console, hein, je tiens à le dire.
C'est vrai.
Ils se sont fait repérer, ils se sont fait bannir. Bon, après, moi, honnêtement, je fais partie de ces gens que si ça m'arrive un jour, je ferais « Oh là là, quel dommage, je pourrais plus jouer en ligne. Oh là là, vraiment, je suis déçu. » Surtout sur une console conçue pour être jouée en coop local, tu vois. C'est vraiment très très dommage. Oh, vraiment, oh là là. Attends, tu veux dire que je pourrais pas accéder au mode en ligne payant de Nintendo où, en plus, on me filera les ROM que je pourrais avoir gratuitement avec mon hack, tu vois. C'est vraiment très très dommage. Enfin bref, on va s'arrêter là cette semaine pour la Switch, qui ma foi aiguise de plus en plus mes appétits, j'avoue. Hein. Le côté bidouillage, là, ça commence à me botter pas mal. Non, non, mais on va se retenir. Hein. On va pas refaire le coup de la PSP et de la Vita. Hein. On va se retenir, on va attendre. Voilà. Quand il vaudra 100 euros, peut-être que je me pencherai là-dessus. Allez, on va passer au jeu du moment. Et le jeu du moment, c'est Black Wake. Mesdames et messieurs, je suis le tyran et aujourd'hui mon collègue Pixel, ici présent, est là pour répondre à une seule et simple question. Putain de bordel de merde Pixel, qu'est-ce que Black Wake ?
Black Wake, c'est comme Sea of Thieves, mais en mieux les mecs. Ça, je tiens à le dire tout de suite. Bim ! Bim, bim, dans ta face Microsoft, voilà. Parce que Black Wake, en fait, c'est un petit jeu hein, fait par un petit studio qui s'appelle Mastfire Studios. Hein, c'est uniquement disponible sur PC, c'est en Early Access et c'est sur la plateforme Steam. C'est vendu à 20 euros, mais moi je l'ai eu lors d'une journée de remise spéciale à 10 euros. Et c'est mieux que Sea of Thieves. Pourquoi ? Parce que il y a du monde sur les serveurs. Voilà pourquoi. Parce que c'est un jeu de bataille navale du temps des pirates. Hein. Il y a deux camps, soit vous choisissez la cour en Angleterre, soit vous choisissez les pirates, mais ça n'a aucune importance. C'est juste cosmétique. Hein. Et les combats sont beaucoup plus vifs, rapides, nerveux. Soit vous êtes matelot, soit vous êtes le capitaine du navire et vous êtes derrière la barre à piloter votre navire.
Ouais, donc tu veux dire que les rôles sont beaucoup plus clairement répartis que dans Sea of Thieves.
Voilà, ils sont beaucoup plus répartis parce qu'en fait, dans le jeu, n'importe qui peut être capitaine de navire. Tu choisis ton camp et le jeu te demande si tu veux être éligible en tant que capitaine, en fait. Mmh. Et te demande même si tu veux pas écrire une petite phrase, en fait, un slogan qui va te permettre de remporter des voix auprès de tes futurs... C'est comme les hommes politiques, hein. Tu fais un peu de politique. Si les gens de ton équipe votent pour toi, tu deviens le capitaine et c'est toi qui es... Tu es le seul capable de piloter le navire. Tu peux donner des ordres via ton micro. Il y a une roue des ordres qui est extrêmement bien faite, qui est très intuitive et qui te permet de donner des ordres à tes matelots, à tes moussaillons.
Ah mais c'est top ça. Ça veut dire que pour l'organisation du crew, on va dire, voilà, t'as des fonctions intégrées, contrairement à Sea of Thieves où là c'est un peu ouais, on se communique des infos, faudrait que tu fasses ça, etc. quoi.
Voilà. Et les ordres sont très simples et c'est complet. C'est-à-dire que tu peux leur demander de charger à bâbord ou à tribord des boulets de tel ou tel type. Soit tu vas leur demander de réparer la coque du navire ou les voiles du navire qui ont été abîmées. Mmh. Ou tu leur dis de monter à bord du bateau ou de se préparer à l'abordage. Et ça marche très bien. Et en plus, c'est un jeu qui te donne toujours des récompenses sous la forme de points d'expérience parce qu'il y a un système de points d'expérience. Chaque action que tu fais dans le jeu, si tu mets un boulet de canon dans le canon, tu gagnes de l'expérience. Si tu répares la coque, tu gagnes de l'expérience. Et au bout d'un moment, tu gagnes des niveaux. Et au bout de certains niveaux, tu gagnes en fait des vêtements. C'est uniquement cosmétique, mais au moins, c'est bien que les développeurs aient rajouté ce genre de choses. Il y a 3 modes de jeu qui sont extrêmement simples, que tu vois partout dans les jeux multi. Soit t'as du team deathmatch en 3 contre 3, jusqu'à 54 joueurs quand même par serveur, c'est quand même pas mal.
Oui, ça fait des bonnes grosses batailles, ça.
Ça fait des très bonnes grosses batailles. Soit tu as le capture the flag, au lieu d'aller chercher un drapeau, tu vas aller chercher un coffre au trésor et le ramener à ta base. Ou alors tu as la défense en fait de fort, où tu es dans ton fort, les bateaux ennemis vont venir t'envahir, et tu dois te défendre en fait. Donc c'est bien, c'est vraiment très bien.
Alors, Pixel, c'est quand même un jeu en accent anticipé. Il faudrait qu'on aborde le volet avancement et tactique technique, on va dire. Ouais. À ton avis, est-ce qu'on est encore loin de la release? Déjà, premier point. Et ensuite, second point, est-ce que ça tourne correctement au moins? Et est-ce qu'il n'y a pas des bugs, ce genre de choses? Voilà quoi.
Alors, graphiquement, j'ai envie de dire, comme dans la Cité de la Peur des nuls, c'est bien, mais pas top. Alors, c'est moins beau qu'un Sea of Thieves, mais pour un jeu indépendant qui est en développement depuis 4 ans, c'est un jeu qui est visuellement correct. Voilà, c'est pas un jeu qui est raccord avec les jeux AAA de 2018, hein, on est bien d'accord, mais c'est un jeu qui est correct graphiquement parlant, les bateaux sont super bien modélisés, c'est vraiment un jeu à ambiance, et t'as vraiment l'impression d'être sur un bateau pirate, un vrai bateau pirate. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un jeu avec accès anticipé, il n'est pas encore complet, je sais pas pendant encore combien d'années ils vont le développer avant de le sortir en version Gold. Il y a des bugs, un peu partout, hein, des bugs d'affichage, des bugs d'enchevêtrement de modèles 3D en fait, mais c'est pas grave, ça empêche pas de jouer. J'ai pas vu d'exploit où des gens utilisent des bugs pour te mettre la misère. J'ai pas vu ça. Le netcode, il est très correct. Ça m'est arrivé une fois en 15 heures de jeu de perdre la connexion avec le serveur. C'est très honnête. Et il y a des serveurs dans toutes les langues, en anglais, en russe, en français. Et tu vois la différence en fait. Quand tu joues sur un serveur anglais ou russe, si le capitaine n'y parle pas, s'il n'a pas de micro, c'est mal barré. Hier, par exemple, j'ai joué sur un serveur français avec un capitaine français qui nous parlait en français. Et comme tout l'équipage était français, en fait, ou francophone, on comprenait tout de suite ce qu'il nous disait. Il avait de l'expérience, il savait exactement ce qu'on devait faire. Il nous disait charger les canons, attendre avant de tirer, régler la visée sur 400 mètres ou 500 mètres. Et puis au moment où il fallait tirer, il nous disait allez-y, tirez, faites-vous plaisir. Et on a défoncé les adversaires. Voilà, parce que on avait un capitaine qui nous parlait, qui avait d'expérience et qui savait exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire. Donc c'est un jeu d'équipe. C'est un vrai jeu d'équipe. Vous pouvez pas faire le jeu si vous êtes tout seul sur votre bateau, ça marchera pas. Si vous êtes à deux, vous allez galérer à mort. Et c'est un vrai jeu d'équipe. Et malgré ces 20 euros, parce que la plupart des gens vont le toucher maintenant à 20 euros, vu que le prix il est plus à moins 50%. Malgré ces 20 euros, il les vaut quand même. C'est vraiment du fun à l'état pur. On s'amuse tout de suite, c'est très intuitif. C'est bien optimisé, hein. Moi j'ai une GTX 970 et en mettant tous les détails à fond, je dépasse en 1080p les 120 FPS.
Il y a un autre point que je voulais aborder parce que c'est quand même un jeu multijoueur. La communauté, pour le moment, t'en penses quoi? C'est important, hein, parce que il y a des jeux qui sont littéralement gâchés par leur communauté. J'en témoigne, je suis un ancien joueur de Dota. Une des raisons qui a fait que j'ai arrêté de jouer à Dota, c'est les connards qui te balancent des saloperies à chaque fois que tu fais un truc qui leur va pas, quoi.
Non, j'ai pas remarqué ça. En fait, pour avoir en fait la meilleure communication possible, il faut jouer avec des joueurs qui parlent la même langue que toi. Mais des joueurs qui font chier avec leur micro à t'insulter en permanence, j'en ai pas entendu pour l'instant. En 15 heures de jeu, j'en ai pas entendu. Il y a des gens, des fois, bon, ils racontent des trucs bizarres, mais c'est rare, c'est vraiment très rare. Et comme il y a une très très grosse majorité de Russes, bah les mecs parlent en russe, je comprends rien. Donc j'en ai un peu rien à foutre en fait. Mais ouais, si tu veux avoir une bonne... là, j'ai testé un serveur français en fait. Et le serveur français, les gens sont vraiment super réglo et ils jouent depuis pas mal de temps au jeu. Ils font un peu de roleplay et ils, voilà, il vaut mieux jouer avec des gens qui parlent la même langue que toi et il y aura beaucoup moins de problèmes en fait.
Donc trouver même de préférence un groupe, essayer de trouver des gens avec qui tu pourras jouer régulièrement, ça ne fera que renforcer l'intérêt du jeu, je pense.
Exactement.
Un dernier point, parce que bon, t'as fait la comparaison avec Sea of Thieves depuis le début, mais ce qui attire les gens dans Sea of Thieves aussi, c'est le côté
surnaturel.
Monde ouvert surtout. Enfin, le côté tu te balades et tu sais jamais quand la menace peut arriver, quoi, si tu veux. Là, c'est quand même un jeu qui est très structuré, quoi, on va dire. Enfin, c'est clairement un jeu compétitif, en fait. Est-ce que tu sais si par la suite ils ont prévu de faire un mode de jeu entre guillemets plus ouvert, ou c'est vraiment un jeu qui reste focalisé sur ce qu'il fait, qui le fait bien, quoi.
Dans Black Wake, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de lore, il y a rien du tout. Hein. Mm-hmm. Je n'ai aucune idée de ce que les développeurs vont faire à l'avenir, à part le fait qu'ils vont rajouter plus de cosmétiques. Je ne sais pas s'ils vont rajouter des maps. Les maps, en tant que telles, elles sont très grandes, c'est-à-dire que chaque camp démarre à chaque bout de la map, et il va falloir se rencontrer vers le centre. C'est généralement comme ça que ça se passe. Et vous avez le temps, pendant la traversée, de charger les canons, de vous préparer, en fait.
D'accord, ok. Ah oui, tu parlais de cosmétiques, rassure-moi, il n'y a pas de microtransactions un peu dégueulasses ou...
Je n'ai vu aucune microtransaction payante pour l'instant. Tout le contenu esthétique que j'ai vu, il est gratuit, mais il faut le débloquer en jouant.
Bon, de ce côté-là, pour le moment, ils sont réglo. On espère juste qu'ils nous feront pas une Rocket League, hein, Morwan. Parce que Rocket League, ça avait bien commencé aussi, ça s'est mal terminé. Dernier point, le suivi. Le jeu est-il mis régulièrement à jour? Est-ce que la communication des développeurs est au point? Est-ce que tu es satisfait de la manière dont les développeurs gèrent le projet pour le moment? Parce que c'est important sur un accès anticipé. Il y a des accès anticipés qui ont été gâchés par ça.
Le jeu est régulièrement mis à jour. Ils font des mises à jour plus ou moins importantes. Ils écoutent les joueurs. Mm-hmm. Et ils essayent de faire le maximum pour faire plaisir aux joueurs. Et je vois pas comment je peux l'expliquer autrement. Ils font attention. Ils font vraiment attention.
Ils lisent les forums.
Voilà, il faut aller sur les forums Steam du jeu et vous lisez les commentaires. Les mecs sont au taquet et ils respectent les joueurs, ils font leur maximum. Alors ça veut pas dire que peut-être qu'un jour ils vont nous la mettre à l'envers. Hein.
Oui, on a déjà vu des projets très bien gérés qui l'ont fait à l'envers, n'est-ce pas, Mordren? Hein?
Oh oui. Arc, je crie ton nom.
Voilà, c'est ça. Je ne voulais pas le citer, mais c'est ça, voilà. Donc, en tout cas, Pixel, ça fait bien envie, tout ça. Un jeu de pirates compétitif bien structuré. En fait, moi, j'aurais tendance à dire, c'est le pendant compétitif de Sea of Thieves. C'est-à-dire que si vous êtes un joueur qui jouait à Sea of Thieves pour la compète, enfin pour se taper sur la gueule et qui en a rien à foutre, rien à battre littéralement de tout l'aspect aventure, j'explore, je vais ramasser des coffres, voilà, etc. Je pense que pour le coup, vous avez intérêt à vous y intéresser parce que pour le moment, Ubisoft de son côté a reporté son petit jeu, n'est-ce pas ? Donc Black Wake est tout seul sur le créneau là. Bon, on va s'arrêter là pour cette semaine, messieurs.
Ouais,
ouais.
Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, les gens. Ciao.
Salut.
Arr, Moussaillon, à l'abordage !